Audiolib présente La part de l'autre, suivi du journal d'écriture d'Éric Emmanuel Schmitt, lu par Daniel Nicodème avec la participation de l'auteur. À la mémoire de Georges Elser, poseur de bombes artisanales. La minute qui a changé le cours du monde. Adolf Hitler, recalé. Le verdict tomba comme une règle d'acier sur une main d'enfant. Adolf Hitler, recalé. Rideau de fer, terminé. On ne passe plus. Allez voir ailleurs. Dehors. Hitler regarda autour de lui. Des dizaines d'adolescents, oreilles cramoisies, mâchoires crispées, le corps tendu sur la pointe des pieds, les aisselles mouillées par l'affolement, écoutaient l'appariteur qui égrenait leur destin. Aucun ne faisait attention à lui. Personne n'avait remarqué l'énormité qu'on venait d'annoncer, la catastrophe qui venait de déchirer le hall de l'Académie des Beaux-Arts, la déflagration qui trouait l'univers, Adolf Hitler recalé. Devant leur indifférence, Hitler en venait presque à douter d'avoir bien entendu. « Je souffre. J'ai une épée glacée qui me déchire de la poitrine aux entrailles. Je perds mon sang et personne ne s'en rend compte. Personne ne voit le malheur qui me plombe. Suis-je seul sur cette terre à vivre avec autant d'intensité? Vivons-nous dans le même monde ?» L'appariteur avait fini la lecture des résultats. Il replia son papier et sourit dans le vide. Un grand type jaunâtre, sec comme un canif, des jambes et des bras raides, interminable, maladroit, presque indépendant du tronc et retenu par une attache incertaine. Il quitta l'estrade et rejoignit ses collègues, la besogne achevée. Pas du tout le physique d'un bourreau, mais la mentalité. Persuadé d'avoir énoncé la vérité. Un crétin du genre à avoir peur d'une souris, mais qui pourtant n'avait pas hésité à prononcer calmement, sans trembler une seconde, Adolf Hitler, recalé. L'année précédente, déjà, il avait dit la même horreur. Mais l'année précédente, c'était moins grave. Hitler n'avait pas beaucoup travaillé et se présentait pour la première fois. En revanche, aujourd'hui, la même phrase devenait une sentence de mort. On ne pouvait concourir plus de deux fois. Hitler ne lâchait pas des yeux l'appariteur qui riait maintenant avec les surveillants de l'académie. De grands échalas de 30 ans, blouse grise. Des vieux, selon Hitler, qui n'en avaient que 19. Pour eux, c'était une journée ordinaire. Une journée de plus, une journée qui justifiait leur paye à la fin du mois. Pour Hitler, ce jour était le dernier de son enfance. Le dernier où il avait pu encore croire que rêve et réalité s'accommoderaient. Le hall de l'académie se vidait lentement, telle une cloche de bronze qui se débarrasse de ses sons et les envoie dans toute la ville. Pour vivre le bonheur de l'admission ou la tristesse du rejet, les jeunes gens partaient remplir les cafés de Vienne. Seul Hitler restait là, immobile. Assommé, livide. Tout d'un coup, il venait de s'apercevoir, de l'extérieur, comme un personnage de roman. Il est orphelin de père depuis des années, de mère depuis l'hiver dernier. Il n'a plus que 100 couronnes en poche, 3 chemises et une édition complète de Nietzsche dans sa valise. La pauvreté s'annonce avec le froid. On vient de lui refuser le droit d'apprendre un métier. Qu'a-t-il pour lui? Rien. Un physique osseux, de très grands pieds et de toutes petites mains. Un ami auquel il n'osera pas avouer son échec tant il s'est vanté de réussir. Une fiancée, Stéphanie, à qui il écrit souvent mais qui ne lui répond jamais. Hitler se voit tel qu'il est.